Cascodeur Podcast, épisode 178. All your codes are belong to open source. Enregistré le 26 septembre 2017. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode 178. On a un épisode plein de nouvelles et je suis Emmanuel Bernard et je suis accompagné de une Lascarde et un Lascar.
Bon, bonjour moi, tout le monde.
Guillaume Laforge.
On est en décalage.
Moi c'est Arnaud Audrey, enfin ça dépend des jours. Ça,
ça va?
Ça va bien.
Bah, ça va, ça va.
Bon écoute, faut bien.
J'ai pas la méga patate, moi, mais on va se réveiller avec,
ouais,
avec
pas, le temps. Pas facile la rentrée, hein.
Ouais, y a pas à dire, hein, le 9h du mat, c'est pas notre truc.
Désolé, c'est ma faute. Ouais,
y compris la mécanique qui ne fonctionne pas. Problème technique. Bon, on va se lancer parce qu'on a plein de nouvelles. Déjà, Java 9 est sorti. Ça y est, c'est officiel.
On y croyait
plus. On fait un lancement. Ouais. Donc ça c'est cool. Et en fait, il y a plein de choses. Donc on a beaucoup parlé du système de modules avec le linkage, etc., etc. Voire même les jars, les multijars là qui permettent de supporter des versions différentes du JDK. La remodularisation du JDK lui-même. Mais en fait, il y a plein d'autres choses. Donc je vais vous laisser aller sur la documentation d'Oracle qui liste un peu tout ce qui est. Ce qui est arrivé, notamment il y a JShell, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils ont enlevé des vieux outils genre JHat et des choses comme ça.
Ils ont enlevé la API, ouais. Elle est déprécate.
Oh les applets, ouais. Oui. Quel souvenir.
Oui. Du coup ton site web il va moins bien marcher.
Bah oui, c'est toute notre jeunesse qui s'en va là les gars.
J'ai jamais trop apprécié, moi, à part les molécules qui tournaient, là, c'était le...
Moi non plus, mais c'est le premier truc qu'on m'a appris, alors.
D'accord. Pas mal d'améliorations au niveau TLS, notamment OCSP, des choses comme ça, le support CPU de fonctions dans le CPU pour accélérer ce genre de choses, et les instructions mathématiques de manière générale. Quoi d'autre? Plus de SHA-1 dans les certificats, mais ça, on le savait déjà. Le SHA-3... qui arrive, voilà, et plein d'autres choses, des choses dans le langage lui-même, finalement pas beaucoup, hein, vraiment des choses mineures. La Javadoc en HTML5, avec un truc de recherche, si je me souviens bien.
Ah oui, je l'ai pas testé ça, mais c'est joli, pratique.
Voilà, et plein d'autres petites choses. Alors, le concurrent Mark Sweep est déprécié. Et maintenant, il faut utiliser G1. Donc,
par défaut.
Quand vous mettez à jour, voilà, allez regarder vos fonctionnalités. Enfin, faites vos tests, parce qu'évidemment, un garbage collector différent de l'autre, vous aurez des réactions un petit peu différentes de votre application sur votre application. Donc, faites un petit peu attention. Voilà, et plein d'autres choses. Ils parlent même de Nashorn. Ils ont fait des choses côté client, notamment avec autour de JavaFX, Unicode 8, etc., etc. Donc plein de nouvelles fonctionnalités, même au-delà du système de modules qui est évidemment la grosse fonctionnalité, mais aussi celle qui est la plus controversée. Donc voilà, vous êtes contents?
Ouais.
On est.
Mais bon, ça va.
Il n'y a pas de mots, certainement... pour exprimer.
Ouais. Mais ça va certainement quand même mettre pas mal de temps à être adopté à cause des modules et de l'impact que ça a un peu partout sur les librairies, sur tous ceux qui ne sont pas encore modularisés.
Ouais, je pense,
etc.,
que sa mauvaise presse ne va pas aider. Ouais. Ouais.
Mais enfin, pas que mauvaise presse historique. Mais tous les petits soucis qu'il va y avoir pour pas mal de projets, pas que des librairies, des dépendances. Donc je suis assez curieux de voir comment ça va se passer.
C'est une migration moins triviale que ce qu'on a pu avoir avant, en fait. Enfin, il y a eu des gros changements, mais là, tu touches à la structure, tu vas du projet, tu vas loin, quoi.
Write once, run everywhere, il prend du coup dans l'aile.
Ah non, run everywhere, ouais, mais pas sur toutes les versions, quoi. Ouais. Mm. Et puis sinon, il y a des Java champions qui ont parlé de Java 9. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent,
Audrey? C'est Simon Maple qui a fait une interview. Donc, il a interviewé Je vous retrouve ça, je vous retrouve les noms. Il y a nos amis anglais, il y a Trisha, Martin et Ben. Il y a aussi Raphaël, Winterl.
On a des amis anglais.
Yannis Cabot. Moi, oui. Toi, tu fais ce que tu veux. Il y a notre copain Henri Tremblay aussi, et puis Simon Ritter, Bruno Souza, Mario Toré, tout ça. Alors, l'article va être en trois parties, mais la troisième n'est pas encore publiée. Et donc, il leur a posé quelques questions, à savoir, quelle est la feature préférée, votre feature préférée dans Java 9, sur une échelle de 1 à 9, quelle note vous donneriez à Oracle pour la gestion de la release? Si vous pouviez remplacer une feature de Java 9 avec une autre feature, laquelle ce serait? Et est-ce que vous allez migrer à Java 9? Donc, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve bien le gros clivage sur Jigsaw, qui revient quand même assez souvent. Et il y a une question que j'ai trouvée super sympa, qui est trois mots pour décrire Java 9, et là, ça donne des résultats assez... assez épique, genre Haynes qui répond excellent consulting opportunity. Voilà. Et donc vraiment, enfin, je l'ai trouvé assez sympa cette interview, mais je pense qu'elle elle est bien à l'image de la position de la communauté, quoi, sur la division par rapport à cette release là.
D'accord. Bien. Alors, il y a du rififi dans les releases parce que Java 9, on voit que c'est quand même un gros paquebot. Alors non seulement la modularisation a été compliquée, exposer le système de modules a été compliqué, mais on a vu qu'il y avait plein de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est vrai que c'est un peu, ça fait une grosse vague à absorber. Et du coup, il va y avoir un changement dans le rythme dont Java va être fait. En tout cas, c'est une proposition de Mark Reynolds à la communauté OpenJDK. Et l'idée, c'est de faire un peu comme les distributions Linux à la Fedora, etc. Alors, je me rappelle plus les détails, mais je crois que c'est une release tous les 3 mois et une release stable, enfin long terme support tous les 9 mois, c'est ça?
C'était ou... pas 6 mois. Alors,
tous les 6 mois.
Perdu là.
Tous les 6 mois.
C'est 6 mois, non?
Ouais.
Tous les 6 mois.
T'en as deux par an en fait pour. Alors, c'est voilà. Pas la LTS, la long time support. T'as une release feature tous les 6 mois. Mars et septembre. Ensuite, entre deux, t'aurais des ce qu'ils appellent des feature release, donc enfin des update release, pardon, qui n'embarqueront que des fixes globalement. Ouais. Et puis tous les 3 ans, ça commencera en septembre 2018, la feature release, ça deviendra une long time support release.
D'accord. J'ai dit n'importe quoi, donc écoutez ce qu'a dit Audrey. C'était un peu trompé. Et du coup, pour fêter ça, on va passer l'année prochaine donc de Java 9 à Java 18.
Voilà.
Puisque
directement.
En fait, voilà, ils vont utiliser ce que certaines, notamment Ubuntu, avaient lancé, c'est-à-dire l'année point le mois.
Alors ça, l'année oui et non, parce que c'est
l'année
juste
sans
les deux
le
2000. Derniers digits. Ouais. Donc moi, voilà. Quand Mark Reynolds, il a dit ça sur Twitter, moi je lui ai dit, mais comment on va faire avec le bug de l'an 3000 et tout ça, parce que comment... non, ou 3100, attends, du coup. Non, 3100. De 2100. Oh, je dis n'importe quoi, moi aussi, ouais. Je suis pas bien réveillé. Parce que je veux dire, en 2100, on va repasser à Java 0.0, et en 2101, ça va être Java 1, 1 point quelque chose, ça va être trop bizarre. Bon, peut-être qu'on a plus de temps que pour le bug de l'an 2000, mais quand même, hein.
Ouais.
Si Java est
vous
encore là.
Vous en pensez quoi, vous préférez un modèle comme ça plus rapide ou
si quand même parce que donc là par exemple là j'ai mis un lien juste après je crois où il annonce par exemple une des prochaines features de Java 10 vu qu'ils sont en train de regarder dans les JEP pour savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inclure dans quelle version et par exemple il y aurait l'inférence de type local, c'est-à-dire au lieu de faire list égale new ArrayList, tout ça, on pourra faire var, alors, enfin si c'est var qui retiennent ou pas comme mot-clé, var égale new ArrayList. Et du coup, ça, ils ont pu dire, tiens, celui-là, on pense que ça va être prêt pour être inclus dans Java 10, dans la prochaine version. Donc ce qui fait qu'on va pas attendre genre 2 ans avant qu'il y ait un truc intéressant, mais de manière plus incrémentale et régulière, on aura plus ou moins des petites ou grandes features, ça dépendra combien de temps ils auront travaillé sur chaque truc, mais ça arrivera quand ce sera prêt, plutôt que d'attendre, la prochaine release, les modules, ça prend du temps, alors ce sera que dans 2 ans qu'on aura telle ou telle feature, quoi. Donc moi, je trouve ça bien.
Ouais, je trouve ça bien aussi. Ça va permettre de. Enfin, l'article de Marc est vachement bien, je trouve. Il explique réellement les bénéfices qu'il attend de cette migration. Et je suis assez d'accord avec lui quand il dit que, bah, avec une release de 6 mois, il y a des chances que tu augmentes l'adoption vers les nouvelles versions. Parce que effectivement, quand tu dois attendre 2 ans et demi pour une nouvelle version, que tu sais que ta migration, elle va être douloureuse. Tu réfléchis à 2 fois, quoi. Alors que là, en 6 mois, bon, déjà, puis ça donne une image aussi, je pense, plus dynamique au langage, tu vois.
Ah bah
Quand
ouais.
t'as un langage qui a 20 ans et qui se traîne une réputation d'être une usine à gaz, être capable de faire des releases tous les 6 mois, justement,
C'est un
ça va
langage
dynamiser un peu le truc,
millénial.
quoi. Ouais.
Millénial, c'est pour ça. S'ils se traînent les pattes.
C'est pour ça.
Et en 140 caractères, les programmes. Ouais, tiens, je plug quelque chose. Là, tu parlais l'inférence de type local, là.
Ouais.
Y a un épisode intéressant de No Limit Sécu sur langage de programmation et sécurité. Et alors tu vas pas aimer trop Guillaume, mais c'est vrai qu'ils étaient largement en faveur des langages statiques et surtout sur la lisibilité, et notamment pour eux l'inférence de type, ben c'est sympa quand tu l'écris, c'est beau, etc. Et puis après t'es obligé de redeviner l'inférence, et donc après t'avais le débat IDE qui t'aide versus
Ouais,
pas IDE.
c'est un
Mais en
vieux
gros,
débat
voilà.
ça.
Donc c'est ouais, mais là c'est du point de vue de la sécurité, des bugs qu'ils voient passer, qui sont liés à ce genre de choses.
Ouais, je suis un
En
peu
tout cas, vous.
dubitatif, mais bon.
Bah, écoute leur épisode. Après, c'est pas des développeurs, c'est des ex-développeurs ou des
Ah, tu
voilà.
vois.
Donc faut trouver le débat assez intéressant. Mais ouais, mais en même temps, c'est
Maintenant,
des
on
gens qui
croit les
après gèrent nos
ex. Les
merdes
ex, on les
et
croit
qui
plus.
doivent être appelés le matin pour tu vois
Ok.
pour résoudre les problèmes. Voilà. Sinon, bah du coup, ça continue dans les news un peu qui changent la vie. Le JDK d'Oracle, l'objectif, c'est d'open sourcer tous les morceaux. Alors, je sais pas si vous saviez trop, mais le JDK d'Oracle, il est propriétaire avec une licence spécifique et il a des outils. Alors, il s'appuie sur OpenJDK, mais par contre, il y a des outils qui étaient spécifiques au JDK d'Oracle, notamment Mission Control, les choses comme ça, Flight Recorder, etc. Donc, quand on fait de la perf, c'est des outils hyper utiles qui étaient proprio. Et donc là, il n'y a pas de timeline, mais l'idée, c'est de tout de donner. Alors, il y a un truc pas hyper clair, mais en tout cas, de ce que j'ai compris moi, c'est de tout open sourcer pour que le JDK d'Oracle et le OpenJDK finalement soient la même chose, qui est de moins en moins, voire zéro différence à la fin. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui utilisent ces outils supplémentaires. Sinon, bah, vous rappelez, il y avait les compact profiles ou des choses comme ça. Bah, tout ça, c'est déprécié parce que maintenant, on a la capacité de décider quel morceau du JDK, quel module du JDK on veut utiliser et reconstruire un mini JDK juste avec les modules qu'on a nous. Donc, tout ça disparaît. Notamment, il y avait cette idée de Java Embedded qui était censé être plus compact. Donc tout ça s'en va.
Ça disparaît en faveur de l'OpenJDK Mobile Project, en fait. Ouais.
Alors attends, j'ai confondu deux histoires là.
Non, non, mais c'est ça. Enfin,
Ouais, vas-y, alors
il y a
raconte le.
plusieurs
Ouais,
trucs.
c'est ça.
Il y avait l'introduction dans le JDK 8 des Compact Profiles. Dans le JDK 9, il y avait cette histoire de Ahead of Time, l'outil de compilation qui te permet de réduire ton impact, d'avoir de meilleures performances, etc. Ton impact runtime, pardon. Et puis il y a le OpenJDK Mobile Project. Qui lui va se concentrer sur le portage du JDK sur les plateformes mobiles et qui du coup rend Java Embedded obsolète, enfin plus nécessaire, disons.
D'accord. IBM a décidé de donner sa JVM, J9, à la fondation Eclipse, donc ça s'appelle Open J9. Et alors c'est pas un concurrent de OpenJDK, c'est un concurrent de Hotspot. Donc dans OpenJDK, il y a les librairies Java utiles, quelque chose, donc toute cette partie-là, donc la partie du code, les API avec lesquelles vous interagissez. Il y a les compilateurs et les choses comme ça, et puis il y a la partie qui est là pour ben, interpréter le bytecode, le compiler et le faire tourner. Donc ça, c'est Hotspot chez OpenJDK, et puis ça s'appelle enfin ça s'appelait J9 chez IBM, et donc ils viennent de donner cette partie-là à Eclipse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un morceau qui a été designé pour scaler en termes de device, donc des petits jusqu'au très gros. Alors ça veut pas dire qu'ils sont aussi rapides que Hotspot. Du coup, ils ont fait des choix de performance un petit peu différents. Donc j'ai pas trouvé encore de comparaison, à part des tests vraiment qui servent à rien, de comparaison entre les deux dans des univers in real life. Mais donc je pense qu'on va voir ça dans les semaines ou dans les mois qui viennent, de comparer un petit peu OpenG9 et puis Hotspot, et voir ce qui est intéressant. Mais dans tous les cas, en fait, on utilise OpenJDK, et puis OpenJDK, il choisit l'un ou l'autre. Donc ça, c'est quand même une grosse nouvelle. Alors moi, j'ai demandé aux gens qui étaient chez Red Hat, et en fait, c'est pas le même effort que Apache Harmony. C'est vraiment un autre morceau qu'ils n'avaient pas open sourcé jusqu'à présent. Vous avez eu des échos, vous, des gens qui avaient essayé?
Je suis curieux de voir si on voit des incompatibilités ou pas avec, tu vois, un JDK au-dessus d'une VM. Est-ce qu'ils ont bien été testés ensemble? Mais remarque, j'imagine quand même qu'IBM doit faire le test pour voir si leur VM fonctionne avec OpenJDK. Ce serait étonnant, sinon peut-être, je sais pas.
Non, mais ça fonctionne, mais par contre, ton code, il y a peut-être des réactions un peu différentes.
Bah oui, voilà. Je suis curieux de voir. Non, mais j'ai pas eu d'écho, en tout cas, ouais.
D'accord. J-Shell a une API pour s'intégrer.
Ouais, parce qu'en fait, on parle de J-Shell, c'est rigolo de pouvoir faire des petits bouts de Java dans un shell, comme on peut le faire depuis 14 ans avec Groovy ou d'autres langages. Mais l'autre aspect qui est intéressant aussi, donc là c'est un article, c'est de quelqu'un qui est de la communauté Groovy à la base, qui a fait un article, donc il présente J-Shell où on voit les mêmes trucs que d'habitude, mais qui explique qu'effectivement J-Shell a aussi une API, ce qui veut dire qu'on peut intégrer J-Shell dans une application. Donc nous c'est pareil pour Groovy, on avait fait la même chose, c'est-à-dire on peut intégrer un shell. Imagine, je sais pas, que ce soit une web app, une appli qui tourne côté serveur ou quoi, tu peux avoir une sorte de shell, tu peux te connecter. Alors j'ai pas regardé comment ça fonctionnait par contre pour s'y connecter ou comment le surfacer, mais tu as une API qui permet de faire cette intégration, et du coup c'est pas juste un outil que tu lances sur ta ligne de commande pour faire des bouts de Java, mais tu peux interagir avec une application qui tourne en live. Et si tu exposes les bons objets que avec lesquels tu pourras jouer, quoi, interagir. Mais du coup, c'est assez intéressant pour faire de l'introspection live ou des changements de configuration à chaud. Enfin voilà, il y a plein de use cases qui peuvent être sympas du fait qu'on peut intégrer du code qu'on peut faire tourner en live comme ça dans une application qui tourne.
D'accord. Alors faites attention à la sécurité avant de mettre ça en prod quand même.
Ça, c'est un autre
petit problème. Conseil des casse-codeurs gratuit pour vous. Allez.
C'est vrai.
Au niveau des librairies, il y a Reactor Core qui vient de sortir leur première release candidate pour la version 3.1. Alors, Reactor Core, c'est la partie réactive de Spring en fait. Hein.
Voilà. Et effectivement c'est la première release candidate, mais la general availability va être dispo à la fin du mois, et c'est celle qui sera dans Spring 5. Donc il y a eu pas mal de travail de fait. En fait là il termine. Pourquoi il y a un petit délai, un délai aussi court en fait entre la release candidate et la general availability? C'est parce qu'ils ont quasiment terminé. Ils bossent sur la doc principalement. Et donc il y a eu pas mal de travail sur les API flux et mono notamment. Il y a une meilleure cohérence au niveau des opérateurs. Et puis des petites modifications comme le fait que les sources de Reactor Test, elles ont été déplacées dans le même repo que Reactor Core. Donc si vous vous en servez, que vous changez, vous passez à la version 3.1, bah, méfiez-vous. Voilà. Enfin, il y a pas mal de boulot qui a été fait apparemment. Je vous invite à lire l'article de Simon pour tout savoir.
Cool. Et alors au niveau middleware, c'est pareil, il y a un peu le... Alors vous rappelez, on a parlé de Java E qui allait être open sourcé. On savait pas grand chose, on a vu le monologue dithyrambique d'Antonio qui disait que de toute façon tout est foutu. Rendez-vous à l'épisode d'avant pour ça.
Monde de merde.
Mais ouais, c'est ça. Mais ça avance puisque la fondation a été choisie, c'est la fondation Eclipse. Alors, ça sera pas le nom Java EE, parce que lui, il va rester chez Oracle. Donc, Eclipse va définir un autre nom pour ça. Juste pour clarifier, donc c'est les specs, les nouvelles specs, c'est le TCK et éventuellement les implémentations de référence, en tout cas pour les nouvelles specs qui vont être sous ce parapluie de la Fondation Eclipse qui sera, alors pas Java EE dans le nom, mais en tout cas qui correspondra à Java EE. Alors évidemment, il y a la gouvernance à définir. Est-ce qu'on reste compatible ascendant comme l'est aujourd'hui Java EE? Est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'on fait des releases tous les 5 jours ou tous les 5 ans? Voilà. Tout ça, ça reste encore à définir, mais moi, je trouvais ça plutôt positif de voir que ça avançait, que c'était pas resté... qu'on n'avait pas fait l'annonce et qu'après, rien n'avançait. Visiblement, il y a des discussions qui avancent et les gens poussent. Donc, c'est cool. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous rappelez MicroProfil, hein, qui était une approche notamment pour le développement des microservices sur les pardon,
tu dis MicroProfil, pas profile.
Ouais, alors là je suis un peu j'hésite entre les deux, tu vois,
la version française ce matin.
OpenG9, OpenG9,
MicroProfil,
OpenG9. Voilà, donc MicroProfil pour le développement de microservices, rajouter des espèces de specs pour aider le health check, la configuration, ce genre de choses. Donc peut-être que tout ça va rejoindre le même parapluie en fait et travailler de concert. Voilà.
Et en plus, c'est bien, c'est en microfibre, c'est aéré, c'est respirant.
Voilà, c'est ça.
C'est en toute configuration aussi, c'est ça. Voilà.
C'est tellement micro tout ça. Il y a des micros de partout.
C'est 9h du matin.
Même nous, pas nous, je veux dire, pour enregistrer le podcast, on utilise aussi des micros.
Bref. Il est tôt, hein. Ouais.
Ouais, il est tôt. Aïe, 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 ouais, c'est clair. C'est pas ajusté encore. Sinon, IBM, Open Source, WebSphere, Liberty. Alors, vous rappelez, WebSphere Liberty, c'est la réécriture de WebSphere classique, mais dans un mode beaucoup plus léger, un peu ce qui avait été... fait pour avec Wildfly côté Red Hat et puis par Tommy Tribe, etc. Et du coup ils ont lancé, alors c'est pas dans une fondation, c'est openliberty.io, et ils ont open sourcé cette partie là de WebSphere. Donc là c'est la fête de l'open sourcing, hein.
Mais c'est quand même assez... Est-ce que c'est juste réactif par rapport à Oracle qui ouvre tout ça, ou est-ce qu'ils avaient déjà l'intention de le faire avant? Je serais curieux de savoir, d'être une petite souris et de savoir comment ils ont décidé ça. Enfin, c'est bien, hein, tant mieux qu'ils open source. Il y a plein des choses composant l'infrastructure comme ça, comme auditiser, c'est très bien. Mais je me demande si c'est juste réactif ou... Après avoir parlé de réactif.
Pour avoir open sourcé des projets qui étaient proprio avant, ça prend beaucoup de temps. Parce que les avocats sont entre toi. Alors, c'est léger, c'est sur cette partie-là, mais nettoyer le code, ça prend du temps. Et après, les avocats sont, surtout chez IBM et Oracle, j'imagine, sont entre toi et cet objectif.
Ouais. Donc, ça fait certainement un moment.
C'est planifié depuis un certain temps. Ouais.
Ok. D'accord. Voilà. Après, l'annonce, peut-être qu'elle est peut-être là au bon moment, mais peut-être qu'ils l'auraient fait dans 3 mois et que du coup, ils l'annoncent tout de suite ou.
Ils ont un joli site web, hein. Ils ont bien bossé. Ils ont bien bossé la partie.
Je sais pas si j'utiliserais WebSphere quand même. J'ai de trop mauvais souvenirs du gros WebSphere. Même si je sais que c'est pas le même, moi je l'aurais pas appelé WebSphere.
C'est
ça. Truc, hein.
Une forme de traumatisme, c'est ça.
Ah ouais, sérieux.
Mais il appelle Open. Tous les projets s'appellent Open maintenant. Il faudrait racheter un point Open et on va se faire beaucoup d'argent à vendre les noms de domaine.
Non, mais il va falloir faire un nom de domaine point Open parce que là. On n'en peut plus.
Ouais, c'est ce que je te disais, un top level domain.
Ouais, top level domain. Ouais.
On l'achète et après on le revend au projet open source.
Ouais, c'est ça, ouais. Top, ça. On va le proposer.
Ouais, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même l'open source devient le choix de facto, quoi. C'est plus un truc où, on a nos parties proprio et puis on a ce petit monde du open source. Là, on voit que tout le monde part vers ça. On voit Azure, .NET Core, on voit IBM qui libère son joyau, en tout cas la nouvelle version de son joyau. On voit Oracle qui lâche Java EE dans une fondation, G9, etc., etc. C'est impressionnant. On savait qu'il y avait une vague open source, mais là, ça continue, quoi.
Tout sera open source, même nous. On va nous open source.
Sauf les services. N'est-ce pas, monsieur? Alors, on va passer au web.
Ouais,
Angular 4.4 est sorti.
C'est ça.
On va laisser les pros en parler.
Côté web.
C'est ça.
Tu parles. Non, alors en fait, Angular 4.4, c'est pas une grosse release, en fait. Il y a plus
c'est une
de
release tout terrain, non
sur des bugs.
Arrête, j'allais la faire, mais j'attendais le bon moment.
Tu peux aller partout avec.
Donc, il y a surtout, en fait, des bug fixes. La prochaine grosse release, ce sera le mois prochain, ce sera la 5.0. Mais il y a des petits trucs sympas parce qu'il y a des petites choses qui ont été modifiées en interne pour améliorer la performance. Et puis, par exemple, il y a un nouveau flag au niveau du compilateur qui permet d'enlever les extra white spaces, les espaces blancs inutiles. Ça paraît idiot, mais en fait, ça permet d'améliorer le code généré et ça permet d'accélérer la création des composants derrière, donc c'est pas négligeable. Là où il y a eu le plus de travail finalement, c'est sur la CLI d'Angular, qui a beaucoup bougé sur les 4 derniers mois. Donc il y a des choses, des petits morceaux, comme par exemple un flag moins minimal qui permet de générer un projet par défaut qui va être plus petit et plus simple, ou un moins build optimizer qui, lui, va permettre de supprimer le code dont on n'est pas dépendant. Alors pour info, il y a quand même, sur le build de prod d'Angular, ils ont constaté 50% de réduction de taille, hein, donc ça vaut le coup. Il y a aussi la mise à dispo des dernières fonctionnalités de Webpack 3. Et surtout, ils embarquent des choses comme Angular Universal. Donc Universal, c'est un truc qui a été inclus dans la V4 et ça met à dispo les API pour rendre son application Angular dispo en server-side rendering. Et donc maintenant, Universal est embarqué dans la CLI, donc vous allez pouvoir, à partir de la CLI, créer votre application avec le bundle pour le server-side rendering en prime. Et l'autre grosse partie, c'est
Command Line Interface.
Voilà. Et Schematics, donc, qui est un outil de scaffolding, en fait, qui va maintenant être utilisé par la CLI pour générer tout le squelette de l'application, etc. Donc, il y a pas mal d'évolutions de ce côté-là. Le truc sympa, notre ami Cédric Exbraya a fait un petit projet sur GitHub pour vous aider à la migration. Donc, en fait, vous lui donnez la version de la CLI que vous utilisez à l'heure actuelle et il va vous donner automatiquement le diff avec tous les fichiers qui viennent se rajouter si vous migrez. Voilà, c'est cadeau. Merci, Cédric.
Et alors, attends... Vas-y, resume sur les white space là. Donc les gars, ils enlèvent 3 white space par-ci, 3 white space par-là, et ils ont des gros performances de gains. Ça fait peur. Hein.
J'ai pas dit des grosses performances de gains, j'ai dit des performances d'amélioration. Bon.
C'est vrai. D'accord. Que l'espace, c'est une différence de performance, c'est marrant quand même. Ça paraît bizarre.
C'est comme, bon. C'est comme l'équipe de Rouge, ils sont toujours là. Ouais, on a gagné 30% de perf. Et là, tu dis, mais qu'est-ce que vous faisiez avant? C'est quand même pas possible.
On a enlevé les points virgules. Ouh!
Ouh! C'est
excellent. Non, il y a quand même un autre truc dans la 4.4 dont j'ai pas parlé, mais qui est assez sympa, c'est que vous pouvez donner plusieurs names. En fait, vous pouvez donner des alias finalement pour les directives. Donc, ça permet, en fait, ça a été introduit pour vous permettre de continuer à utiliser des vieux noms de librairies que vous êtes en train de migrer et sans tout casser d'un coup d'un seul, quoi. Vous allez pouvoir dire telle librairie, je peux l'appeler. C'est Cédric qui en parle dans un de ses posts, donc il prend une librairie ns-ninja et puis il l'exporte en ninja et en super ninja et du coup il peut l'appeler des deux manières dans son code. Donc voilà, c'est un autre petit bonus. Mais il n'y avait pas grand-chose dans cette 4.4. Bon, passons.
Moi j'en suis toujours 40.
C'est quoi déjà le nom de la directive dans Star Wars pour tuer tous les Jedi là?
Ah oui, la directive. Ouais.
C'est ça.
Ah non, c'était l'ordre 66. Non, ça marche pas.
Ou c'est peut-être dans la traduction française qu'ils appelaient ça directive, non?
Aucune idée. T'avoue, je sais pas.
Je ne regarde plus les films en français. Même les films francophones, je les regarde en anglais. Alors,
c'est fou.
Non, je rigole. Mais en tout cas, je ne regarde pas les... Oh, c'est pas bien.
J'ai réessayé il y a pas longtemps, mais c'est la déprime.
Moi j'attends Devox pour avoir le droit d'aller au cinéma. Ou alors le prochain avion. Sinon, je regarde pas de film.
Alors sinon, il y a Yarn qui a enfin sa version 1.0. Donc Yarn, c'est le nouveau package manager à la mode de JavaScript, qui a été lancé il y a 11 mois, qui à la base a été lancé par un mec chez Facebook, mais qui a su attirer pas mal de monde de partout. Donc en fait, cette version 1.0, il y a eu une grosse contribution de la communauté dessus, hein, c'est pas un travail exclusivement Facebook. À savoir que Yarn maintenant, c'est l'outil qui est utilisé pour l'app principal Facebook, pour le site web, sur Instagram, Oculus et WhatsApp, entre autres, parce qu'a priori, il l'utilise aussi sur peut-être d'autres petits projets, mais bon, voilà. Donc, il y a des nouveautés aussi assez intéressantes dans cette version 1.0, notamment la notion de workspace. En fait, vous allez pouvoir créer un workspace dans lequel vous allez mettre donc les packages.json qui vous servent à déclarer vos dépendances, et lui, il va les agréger, il va tout installer d'un seul bloc, il va mettre un fichier au-dessus, un yarn.loc à la racine pour gérer tout ça proprement, et puis il va créer des symlinks entre les différents workspaces. Donc comme ça, vous êtes sûr que vous utiliserez toujours la dernière version d'un autre projet si vous dépendez d'un projet qui est dans un autre workspace. Donc ça, c'est assez sympa. Il y a un outil de résolution automatique des conflits de dépendance dans le yarn.loc. En fait, il fait tout simplement un gros yarn install, donc bon, voilà. Et il y a un truc qui m'a laissé un petit peu plus sceptique, c'est ce qu'ils appellent la Selective Version Resolutions. Donc en fait, c'est quand tu voudrais utiliser la dernière version d'une librairie, mais que tu ne l'utilises pas directement, que tu utilises à travers une autre librairie qui a une dépendance dessus, et que ben la librairie entre deux, elle, n'a pas fait la mise à jour, mais toi, tu voudrais le faire pour des questions de fonctionnalité ou de sécurité. Et donc lui, Yarn propose du coup de gérer ça dans un package.json file, et il va faire... Donc voilà, je suis assez sceptique sur ce truc-là. Personnellement, j'aurais peur que ça affiche un petit peu le bazar dans la librairie, justement, intermédiaire, qui, elle, s'appuie pas encore dessus. Bon, a priori, tu peux définir des règles et des patterns, tu peux donner des règles et des patterns pour que ça se fasse proprement. Je suis sceptique, j'attends de voir ce que ça donne. Ça vous laisse sans voix, hein, les garçons.
Ah, tiens, on va pas t'aider.
Bah, en fait, ouais, je...
Transition. Transition, Babel 7.0 vient de sortir.
Voilà. Donc, brace yourself, c'est moi qui l'ai rajouté parce que j'ai un souvenir douloureux d'une migration vers la 6.0. Heureusement, c'était des démos, mais ça s'est terminé, que j'ai tout réécrit. Alors, il y a... Elle est pas très, il est pas très très clair, cet article de migration. Donc, il y a plein de choses. Il y a un TypeScript preset. Donc les presets, en fait, ce sont des plugins, parce que Babel tout seul, il va pas savoir.
Alors attends, c'est quoi Babel, en fait, parce que...
Alors Babel,
tu parles à des néophytes. Enfin,
pardon. Voilà, c'est un
outil qui va te permettre.
Ah bah c'est pour les microfibres, justement.
les micropoils plutôt.
Donc en fait, Babel, c'est un outil qui va servir à écrire. Vous allez écrire du JavaScript dans la toute dernière mouture, hyper hype et tout ça. Et lui, il va charger de le compiler à destination des vieilles versions, des versions précédentes. Donc il va transpiler ça pour que ça puisse être interprété en CIS et compagnie. Et du coup, Babel tout seul, il sait pas faire grand chose, en fait. Vous installez Babel, après, il faut lui donner des plugins, pour lui dire, eh ben, voilà, je veux que tu me le transpiles, en React ou en choses comme ça. Donc là, il va savoir gérer du JSX, etc. Et, donc, bah, justement, dans cette 7.0, une des modifications, c'est que le preset flow, qui est un peu le truc de base, il a été sorti du preset React parce qu'il y avait pas mal de complaintes, pardon, j'écris mes notes en anglais et je parle en français, ça marche moins bien. Il y a eu pas mal de plaintes des utilisateurs. Il y avait des erreurs de compile qui étaient assez délicates à détecter. Donc ça, ils ont sorti Flow de React, d'autant plus que maintenant, ils ont un précepte TypeScript. Voilà, ils sont tout contents. Ils sont en train de travailler justement avec l'équipe de TypeScript sur un guide voilà, pour gérer ça. La grosse nouveauté aussi, c'est que maintenant, ils acceptent un fichier de configuration JavaScript. Et qu'ils ont ils drop le support pour des versions de Node, des vieilles versions de Node qui sont plus maintenues. Ça leur a permis d'améliorer le code et puis de faire des mises à jour sur les dépendances d'outils qu'ils avaient comme ESLint, Yarn justement, Jest, Lerna, etc. C'est un projet qui est complètement ou quasi complètement qui dépend de la bonne volonté de la communauté, hein. Il y a un gars dessus en fait qui est à mi-temps, qui travaille dessus à mi-temps. Tu ne m'entends plus, Emmanuel?
Parce qu'il y a Emmanuel derrière qui fait un commentaire.
T'entends, en fait, je voulais faire des blagues derrière, parce que tellement à la ramasse.
Et en fait, c'est vrai que...
Moi, j'attends la tech post-web.
On n'y connaît pas grand-chose, donc on se demande, mais de quoi tu parles?
Je préfère sauter cette technologie web, là, j'attends.
Elle parle encore français, là, madame.
Du coup, c'est bien, parce que comme nous, on comprend pas grand-chose, on est très content de t'avoir parmi nous pour pouvoir parler de tout ça, parce que nous, on est un peu à la ramasse, tu vois, les vieux javaïstes du back-end. C'est un peu ça, quoi.
Non, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que l'écosystème JS, il est tellement, il bouge tellement vite.
Ça bouge tellement vite, nous, on n'arrive plus à suivre, tu sais, on peut plus.
T'as des trucs de tous les côtés, enfin bon, c'est l'adolescence, tu sais, cette période où tu essayes plein de choses et après viendra la maturité et ça se posera et ça sera.
C'est vrai.
Ouais, mais bon, voilà, donc la 7.0, enfin voilà, donc Babel, c'est un projet qui est, qui repose sur les bonnes volontés. Si vous voulez filer un coup de main, si vous voulez filer un peu de sous, ça serait apprécié parce que pour le moment, ils peuvent pas engager de personnes à plein temps pour travailler dessus, donc voilà. Donc on passe tout de suite au relicensing de React, Jest, Flow et Immutable.
Ouais, tiens, si tu veux, je peux le prendre pour faire une petite pause pour ta voix là.
Comme tu veux, vas-y. Mourir, hein.
Ouais, donc vous vous rappelez, on a parlé de React et du gros débat lié au fait que c'est une licence BSD avec une licence brevet rajoutée, qui donnait un poids asymétrique à Facebook, en fait. Si on attaquait Facebook pour des brevets, alors je me rappelle plus si c'était sur ces technologies ou de manière générale, en fait, on perdait le droit aux brevets qui étaient associés à ces technologies-là. On perdait pas les droits de copyright, parce que ça, c'est la licence BSD qui les gérait, mais bref, ça a créé beaucoup de débats, les gens qui disaient, bon, ben, il faut que je passe à autre chose que React, parce que ça me va pas. La fondation Apache qui a dit, ben, les projets hostés chez Apache n'ont pas le droit d'utiliser ces projets-là qui sont sous cette licence-là. Donc, c'est une licence dite X, donc interdite, incompatible. Voilà. Donc, Facebook était là, non, nous, on changera pas. On ne veut pas se faire attaquer par les trolls. Les trolls de brevets, là, je ne me rappelle plus leur nom.
Patent troll.
Comment ? Patent troll, voilà, merci. Voilà. Et donc, finalement, ils ont dit, bon, ça fait tellement de mal... alors que voilà, c'est qu'un détail par rapport au code technique, donc ils ont décidé de refaire la licence sous MIT, donc sans clause de brevet, et de jeter l'éponge là-dessus. Et donc ça parle, enfin c'est pour React, Jest, Flow et Immutable.js.
Et il y a d'autres projets.
Pourquoi
qui
MIT,
sont à
je sais pas trop. Ils auraient pu garder juste BSD, mais je sais pas trop pourquoi.
Et en enlevant la clause là, ouais, je sais pas. Je sais pas quelle est vraiment la différence finalement entre les deux.
Ouais, je sais pas non plus. Et apparemment, ils étudient pour d'autres projets la même migration. Mais il y a des projets pour lesquels c'est plus compliqué. Apparemment, il y a plus d'implications en interne, des choses comme ça. Donc, à l'étude.
Ouais. Ok. Et puis, dans cette mouvance de gens qui se sentaient pas bien là-dessus, donc il y a un article sur pourquoi on a choisi Vue.js au lieu de React. Et cette personne-là, il avait Angular 2. Beta 9, quand il est passé à la 2.0, ils avaient Angular 1, Angular 2, c'était entièrement un truc tout nouveau, il y a tout qui pétait, ils ont arrêté à la Beta 9 et ils ont dit, bon, là, il y en a marre, parce que là, l'équipe Angular, il passe à Angular 4, Si nous, on fait la migration à deux et que ça sera Angular 4 dès qu'on aura fini notre migration, ça commence à bien faire. Et donc, ils se sont mis à évaluer une alternative à Angular. Et donc, ils ont présélectionné React et Vue.js. Et du coup, le gars explique pourquoi il préfère Vue.js. Il avait des critères stabilité, communauté assez forte, bonne documentation, facile à comprendre, intégration avec Bootstrap, etc., etc. Et puis il a été assez impressionné. Donc à part la communauté qui est petite mais assez vibrante, mais beaucoup plus petite chez Vue.js, il était quand même globalement super content de Vue.js et qu'il a réussi à porter une partie de son application extrêmement vite. Je crois qu'il s'est donné, après son étude initiale, il s'est donné 2 jours par technologie pour voir jusqu'où il avançait, sentir un petit peu, et puis du coup ils sont partis vers Vue.js. Ça t'inspire quoi, toi, Audrey, là-dessus? Alors, leur retour d'expérience?
Moi, je partage son... alors, je suis un peu mitigée, en fait, sur son constat de départ, parce que effectivement, ils avaient... je sais pas s'ils avaient AngularJS, donc la version 1. Lui, il démarre l'article, ils sont en Angular 2, bêta 9, et se pose effectivement le problème de la migration à 2.0. Travailler sur... Enfin, je suis pas sûre que j'aurais développé un projet en 2, bêta 9, tu vois, sur la 2, bêta 9, parce que ça bougeait... Sincèrement, moi, à ce moment-là, j'ai tout foutu en pause et j'ai dit, je me remettrai le nez dedans quand la 2.0 sera sortie, parce que ça bougeait tout le temps. C'était assez, assez casse-pied à suivre. Et c'est ce qu'il dit, hein. Il y avait 17 versions en tout. T'avais 8 bêta, 8 IRC et la 2.0 en elle-même, t'avais 17 versions à migrer.
C'est pour comme aller à 2.0. Quoi. Voilà.
Donc, son choix initial, je suis assez sceptique. Après, quand il explique.
Juste avant que tu continues là-dessus. Juste avant que tu continues là-dessus, en fait, Antonio, alors c'était post 2, parce que 1 à 2, effectivement, c'était vraiment le grand combat, mais je crois que eux, ils travaillent sur les bêtas et les RC, parce que ils veulent que quand le projet, il est réalisé, qu'il soit pas déjà à une, voire 1,5, deux versions derrière à Angular. Donc, je sais que eux, ils bossent sur la bêta de celle d'après, en croisant les doigts, en serrant un peu les fesses, et en se disant, au moins, on sera à jour et propre au moment où on sort notre produit, parce que t'as un problème de vitesse entre la vitesse de développement du produit en interne et puis ces librairies qui évoluent 6 fois par jour.
Ouais. Puis là, en plus, a priori, il est dans l'auteur du poste, il est dans un contexte startup, parce qu'à un moment, il t'explique que de toute façon, c'est le seul développeur, qu'il a des grosses contraintes de temps, etc. Donc bon, voilà. Après, là où je le rejoins, c'est sur le côté, lui, ce qui le gêne dans Angular, c'est TypeScript, qui me gêne également. En fait, moi, j'aime pas tellement la nouvelle version d'Angular. Autant la une était très ludique, et moi, c'est celle qui m'a réconcilié avec le JavaScript, parce que ça permettait de faire des choses propres. Elle était pas parfaite, hein, c'est pas ce que je dis, mais autant cette version 2, elle est lourdingue, mais lourdingue, c'est un cauchemar. Et ouais, TypeScript, moi, ça me fait pas du tout rêver. C'est un truc dont j'avais discuté avec Cédric au dernier Mixit, et qui me disait, et ça je le conçois, hein, que lui, l'avantage qu'il voit pour ses clients, c'est que comme tu introduis un typage fort, tu résous pas mal des problèmes, tu t'économises beaucoup de bugs, en fait, sur des clients, chez des clients qui ont des grosses équipes, etc. Donc ça, je le conçois tout à fait, mais c'est pas ma cam, on va dire ça comme ça. Après, sur son choix Vue versus React, lui, il a trouvé, en fait, il a trouvé que c'était plus rapide à coder. Il avait cette problématique de, il voulait réutiliser de l'HTML existant et JSX lui permettait pas. Et il y a un truc, et ça, ouais. Je comprends son point de vue, disons, le fait que React est plus light, mais React fait pas tout. Enfin, c'est-à-dire que quand tu démarres avec React, tu as vraiment juste le minimum. Et puis, très rapidement, il va falloir que tu ailles chercher d'autres librairies pour construire ton application, et tu sais pas forcément lesquelles prendre. Et ça peut être, c'est vrai que ça peut être un petit peu pas bloquant, mais effrayant, disons. Alors que là, Vue, tu te laisses guider, donc voilà, je comprends son point de vue, disons, même si je suis pas d'accord avec la façon dont il a posé le problème au départ.
Ok, merci.
Du coup, j'enchaîne avec Polymer 3, à moins que vous vouliez le faire, les garçons.
Non,
ça va.
Alors, donc, au mois d'août, il y a eu le Polymer Summit à Copenhague. Et donc notamment, ça a pas mal parlé de Polymer 3, qui amène deux grosses modifications. La première, c'est le passage de Bower à NPM. Pour une raison toute simple, en fait, c'est que il y a plus tellement de développement actif sur Bower. Il y a de la maintenance, mais ça vit plus autant. Et NPM a été massivement adopté par la communauté, donc ils préfèrent suivre le mouvement. De la même façon, comme il n'y a pas une grosse traction de la part des comités de standardisation des navigateurs sur les imports HTML, ils ont décidé de laisser tomber les imports HTML et ils passent sur les modules ES6. Donc ça, c'est bien parce qu'en fait, ça va leur permettre d'être plus en adéquation avec le workflow et puis les outils utilisés par la plupart des développeurs JS à l'heure actuelle. Ça va permettre aussi, alors c'est dommage parce qu'il n'y avait pas plus d'infos là-dessus dans l'article, donc il faudra que j'aille chercher plus loin, mais a priori on n'aura plus besoin de polyfill pour faire des web components dans les versions récentes de Chrome, d'Opera et de Safari. Edge et Firefox, ça devrait arriver dans pas longtemps. Et puis ça permet d'utiliser d'autres outils qui sont issus de l'environnement NPM, il y en a pas mal. Et pour coder des libjs classiques, donc c'est-à-dire soit utiliser ces libjs dans ses composants, ou bien à l'inverse utiliser des composants custom dans des libjs, ça va être un petit peu plus facile. Donc ça c'est assez sympa. Et ils ont déjà ils ont travaillé en fait sur un outil qui s'appelle Polymer Modulizer, qui va nous aider à convertir nos éléments et nos applications en Polymer 3.0. Donc a priori ça devrait se faire pas mal. Et dans la continuité, la grosse annonce, c'était Ionic qui passe au Web Component, hein, donc ils en parlaient depuis quelques temps. Donc Ionic, petit rappel, hein, c'est ce framework qui permet de faire du développement mobile cross-platform assez facilement. Emmanuel nous dit qu'il l'attendait depuis longtemps. Voilà, bah tu sois ravi Emmanuel. Donc il y a un talk des deux fondateurs d'Ionic qui a été fait pendant le Polymer Summit, qui est assez intéressant, où ils expliquent en fait par où ils sont passés, pourquoi ils passent au Web Component. Pour faire court, en fait, eux, leur volonté de départ, c'était vraiment de mettre à dispo des composants en JavaScript pur, vraiment simple à utiliser, que le développeur ait pas besoin de se casser la tête à savoir ce qu'il y avait derrière et comment ça marchait et tout ça. Quand ils ont commencé en 2013, bon ben sur le marché il y avait jQuery, donc ça marchait pas très bien avec la volonté de faire du facile et simple et voilà. Et puis il y avait Angular, donc ils ont commencé avec Angular JS du coup. Quand Angular 2 est arrivé, ben, ils ont suivi le mouvement. Et puis maintenant les web components ont pris pas mal de poids là sur ces deux dernières années, et donc ils estiment que le moment est opportun pour passer sur les web components, puisque ça va répondre tout de suite à la problématique de départ d'avoir ces composants natifs et simples à utiliser. Donc la grosse annonce, c'est Stencil, qui est un outil qui est déjà utilisé en interne. Bon, c'est en super alpha. Alors quand les mecs te disent super alpha, tu flippes un peu parce que on a déjà vu ce que ça donne.
Mal.
Ouais, et puis on les connaît. Les alpha et les bêta, elles peuvent traîner longtemps chez Ionic. Donc bon, c'est une super alpha, mais c'est l'outil qui va faire tourner la prochaine version d'Ionic, la 4. C'est un compilateur pour les web components. Ça embarque TypeScript, ça embarque JSX, ça va faire du one-way data binding efficace, a priori, enfin, c'est la volonté. Et c'est inspiré du meilleur d'Angular, de React, de Vue et de Polymer. Alors, que demander de mieux, hein, n'est-ce pas? Et c'est sous licence MIT. Voilà.
Cool.
Sur ce, j'arrête avec le front, je pense que vous avez eu votre dose là.
C'est pas mal.
Et on peut repasser au web un peu plus back-end. Là, j'ai vu un super article sur les webhooks versus websub. Websub, je connaissais même pas. Mais je me demande qui a pu écrire cet article-là. Je crois que c'est une femme d'ailleurs. Audrey Neveu, ça vous dit quelque chose? Vous la connaissez?
Et Audrey, donc, je connais un mec qui s'appelle Arnaud, mais.
Non, j'en parlais. Et donc, ouais, Audrey, elle n'avait pas osé le mettre dans les show notes. Moi, je l'ai rajouté. J'ai lu son article là, qu'elle a écrit sur le site Nordic APIs, qui font aussi d'ailleurs les conférences Nordic APIs, c'est les mêmes, qui est vraiment très, très intéressant, qui explique tout ce qui est event streaming, real time, etc. Et puis WebSub. Alors, à la limite, je vais peut-être plutôt te laisser en dire quelques mots. WebSub en particulier, parce que je connais pas très bien
En fait,
cette partie-là.
alors WebSub, les gens doivent connaître, mais sous un autre nom. C'est-à-dire qu'avant, ça s'appelait
Ouais.
PubSub HubHub, ce qui est super pratique à prononcer, n'est-ce pas? Et qu'on appelait en général PubSub.
Ouais,
Et
c'est un
du
peu
coup,
la
ils se
mode
sont
hip-hop,
dit que...
quoi.
Et donc en avril, ils se sont dit que comme ils l'ont passé, en fait, ça a été adopté
Ne
par
te découvre
le...
pas d'un fil. Ne te découvre pas d'un fil, normalement, en avril.
C'est tout à fait ça, voilà.
Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, continue, je suis désolé.
Et donc ils ont vu qu'il y a eu une adoption par le W3C, etc. Ils ont pensé que le moment était opportun pour le renommer en WebSub, qui est bien plus prononçable. Et bah en fait, tout ça, enfin globalement, les WebSub s'appuient sur les webhooks. C'est une version un peu améliorée, disons, des webhooks, mais avec un usage assez différent, parce que finalement. Le webhook serait plus à réserver à tout ce qui est workflow. C'est-à-dire, en fait, ce que pour moi, c'est à utiliser quand la donnée en elle-même n'est pas importante. Ce qui est important, c'est qu'il y a un événement qui s'est produit et que sur cet événement, on veut réagir et réagir immédiatement. Et après, l'événement en lui-même, la nature de l'événement et les données qui trimballent, bon, bah, ça, c'est autre chose. Ça vient après. Donc, typiquement, bah, c'est les workflows qu'on a, nous, dans le développement. Il y a une nouvelle pull request. Je vais notifier tous mes développeurs par email. Elle a été mergée. Bah, je lance un nouveau build Jenkins, etc. Choses comme ça. Mais on peut penser aussi à des applications, par exemple, dans le domaine de l'IoT médical. Ou s'il se passe quelque chose, on veut en être alerté immédiatement pour pouvoir apporter la réaction appropriée. Alors que WebSub, c'est plus comment dire, ça va plus être il y a un événement, il y a de la donnée derrière, mais l'événement va pas forcément être consommé. L'événement va être consommé en fonction de la donnée. Et typiquement, le cas d'usage, c'est tout ce qui est blog. En fait, c'est ce qu'utilise Blogger, c'est ce qu'utilise Medium, qui a d'ailleurs racheté en fait le plus gros moteur de WebSub. Et là, ça va. C'est ce qu'utilise Facebook en fait. Alors, c'est un peu vicieux parce que Facebook, quand vous allez sur leurs API, ils proposent des webhooks. Et en réalité, ce qu'ils font, c'est pas des webhooks parce que ils font ce qu'on appelle des light ping. C'est-à-dire que au lieu de vous notifier qu'il y a eu un nouveau partage, un nouveau post ou je ne sais quoi, il va vous effectivement vous dire il y a eu un nouveau truc, mais il vous donne pas le contenu et c'est à vous d'aller le chercher après si vous êtes intéressé. Et ça, c'est fait tout simplement pour réduire les coûts, en fait, parce que on est sur des volumes de publications qui sont assez importants. Et s'il fallait vraiment envoyer la donnée à toutes les personnes qui sont abonnées au flux en question, ce serait ingérable. Donc, on a mis WebSub en place. Alors après, il y a aussi, ça, j'en parle dans l'article, mais il y a des petites notions de sécurité qui sont un peu plus strict. En fait, il y a des petits verrous sécuritaires qui sont posés dans les specs de WebSub, qui ne sont pas dans Webhook, hein, parce que Webhook, il n'y a pas de specs, c'est un peu YOLO. Voilà, je pense que j'en ai dit assez.
Top! On dirait que tu connais le sujet, comme si tu avais écrit l'article.
Je l'ai bossé un petit peu.
Ça encourage aussi à cliquer, tu sais, t'as genre, ah, oh, il y a quelque chose qui s'est passé, si t'es intéressé, peut-être il y a un truc super, tu vois, genre peut-être il y a une carte au trésor. Et donc tu cliques et là tu fais, ah bah non, en fait, c'est un article de merde. Donc je sais pas si l'API aussi, elle joue pas sur ses influences psychologiques, au-delà du fait que ça renvoyait tout le contenu, c'est effectivement plus cher.
Bah c'est plus si tu veux à la base ça a été créé pour gérer le RSS hein. Maintenant ça gère tout donc normalement il y a pas ce genre d'influence, c'est complètement agnostique du contenu et c'est vraiment dans un but de relayer l'info au fur et à mesure qu'elle arrive quoi.
Ouais. Alors, on va passer à l'outillage. Donc, on a parlé de Java 9 et du coup, ben, il y a un article de Trisha sur l'intégration IntelliJ avec Java 9. Donc, notamment, ben, comment il supporte les modules, comment il vous aide à développer des modules, comment on peut faire tourner du JShell dans IntelliJ, et puis Je crois que c'est les Z pour simplifier les petits ints là pour utiliser les convenient factory méthodes, notamment celles qui permettent de créer une collection à partir d'un ensemble d'objets, qui est un truc genre on fait set of, set.of, et puis là on passe la liste des objets qu'on veut mettre dans le set, ça nous crée un hset avec ces paramètres là, donc ça c'est le Java 9, et donc eux ont fait des petits outils pour convertir les bouts de code à l'ancienne avec ça. Ça c'est bien. JUnit 5 est sorti. Dans la grande tradition de JUnit 5, ils expliquent pas du tout ce que ça fait. Mais on en a parlé déjà. Vous vous rappelez, il y avait un blog dont on a parlé il y a pas longtemps qui expliquait un petit peu, notamment les nouvelles fonctionnalités de JUnit 5. Donc je vous encourage à revenir sur cette ressource. C'est plus utile que le site web JUnit. Voilà, donc je ne suis pas aigri du tout.
Non, ça se sent pas. Ça va.
Ça se sent pas, hein.
Ouais, moi je voulais rajouter donc dans la série test, pour ceux qui utilisent ou utiliseraient, ou en tout cas je vous encourage à l'utiliser si vous ne l'utilisez pas, GEB, pour vos tests d'intégration, d'interface, etc. Donc GEB, ça permet de faire, par exemple, allez, clique sur tel bouton, va à telle page, fais ci, fais ça. Et il y a un plugin qui est pas mal, enfin, je sais pas si on appelle ça d'ailleurs un plugin, ouais, c'est une sorte de plugin. En fait, quand on utilise, donc GEB, si on l'utilise avec le framework de test Spock, qui fonctionne avec JUnit 4 ou 5, a priori. Donc quand on fait ces tests, on peut aussi demander à ce que il fasse des screenshots de ce qu'il a vu. Donc à chaque étape, on peut avoir du coup dans le rapport aussi de sortie, on peut voir ce qui s'est passé. Donc si un test foire, on peut voir visuellement ce qu'on voyait en fait à l'écran au moment où le test passait, et puis ça peut permettre d'aider à débugger les tests comme ça d'interface. Donc j'ai trouvé ça pas mal là. Voilà.
D'accord. Sinon, méthodologie, il y a les gens de Spring Data, ou un contributeur, ou quelqu'un qui travaille chez Pivotal, je sais pas, mais qui explique comment ils travaillent. Donc, c'est assez similaire à ce qu'on fait nous, mais il y a une différence que j'ai trouvé intéressante. Donc déjà, bon, ils créent une branche quand ils commencent à travailler. Ils changent même la version dans Maven pour pas... avoir des risques de pollution, donc ça Maven 1.0.0 tirait le nom de mon issue par exemple, le nom de mon bug ou le numéro de mon bug, et puis il commence à travailler, il met des commits à droite à gauche, éventuellement il le pousse pour faire une revue, une pull request, etc. Et à la fin, ce qu'il fait, c'est que il prend tous les commits et il les squash, c'est-à-dire que toute la fonctionnalité de la, tous les commits de la nouvelle fonctionnalité, en fait, vont être mis en un seul commit. Donc, il y a le commit qui correspond au changement du pom, là, qui est séparé, et le reste, c'est tous les commits de la fonctionnalité. Et ensuite, ils font un cherry pick de cette branche-là, enfin, de ce commit-là vers leur branche master, et c'est comme ça qu'ils commitent. Alors, ils trouvent ça intéressant parce que, ben, l'historique est assez facile à lire. Un commit, une fonctionnalité. C'est un peu l'approche Gerrit. Il dit de toute façon, les commits, en fait, ils sont un petit peu arbitraires. Enfin, ils ont une histoire assez mouvementée où je fais ça, je reviens en arrière, je change ceci, je change cela. Et du coup, tout mélangé en un seul commit, de toute façon, ça perd pas beaucoup d'infos. Donc ça, c'est son approche à lui. Moi, nous, on fait pas ça, en fait. Dans l'équipe Hibernate, ce qu'on fait, c'est qu'on va réécrire l'histoire des commits pour que ça ait du sens. Ben voilà, ça, c'est les API. Ensuite, l'implémentation minimale. Ensuite, peut-être une fonctionnalité supplémentaire un peu compliquée. Ensuite, la doc. Donc, il y a un espace d'histoire et d'évolution de la fonctionnalité. Alors, non pas aléatoire dans la façon dont on l'a développée, mais plutôt qui raconte une histoire et qui fait que c'est plus facile de lire les évolutions. Et par contre, c'est un certain nombre de commits et on prend ces 5, 7 commits et on les réécrit par-dessus le master. Donc, c'est une approche différente. Je vous encourage à lire son article pour voir si ça vous... Ben, si c'est plus aligné avec la façon dont vous voulez travailler, par exemple. Je trouve ça un petit peu dommage de perdre l'historique, moi, personnellement.
Ouais, je suis du même avis. J'ai tendance à travailler comme toi et je préfère pouvoir relire un petit peu ce qui s'est passé qu'avoir un gros bloc parce que suivant les stories que t'embarques tes commits ils peuvent être assez énormes quand même, il s'est passé plein de trucs ouais perso
bah, t'imagines je... Java 9 nouveau mode système de module tu as la taille du commit
un seul commit Dixo
oh la vache
au secours
ok
mais en tout cas c'est intéressant bon ça marche pour eux après c'est pas le souci il y a un avantage que je trouve c'est que pour les gens qui font du backport sur des vieilles versions par exemple Red Hat ils supportent pendant 7 ans des versions données et du coup c'est au lieu d'avoir à faire un grep sur tes commits pour savoir lesquels correspondent à tel problème et le backporter en reconstruisant bah au moins t'en as qu'un seul donc ça c'est un peu plus facile au niveau de l'archéologie. Par contre, ben, c'est un gros morceau, donc tu peux un peu moins choisir les morceaux du backport que tu veux faire. Donc il y a du positif et du négatif là-dedans aussi. Mmh. Voilà, et vous rappelez Waterfall c'est mal, il faut faire de l'agile, tout ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui a retrouvé le papier original qui invente ou qui décrit la notion de process Waterfall. Et ce qu'il explique, c'est que le papier, il décrit déjà les problématiques du waterfall, le fait que ben tu vois pas tes problèmes avant très tard dans le cycle, et que alors il parle pas de agile, il parle pas de toutes les notions d'agile, mais il introduit certaines alternatives et options qu'on pourrait appeler qualifier de agile dans notre parler d'aujourd'hui. Et ce papier, il date de 1970 pour info. Et donc globalement, finalement, il dit, bah, en fait, on a pris le papier, on l'a lu qu'à moitié, et puis, on a même mal lu l'abstract, parce que l'abstract parlait de ces limites-là, et puis on s'est dit, allez hop, on part vers cette approche, et tout est parti. Et c'est pour ça qu'on a fait du waterfall pendant 30 ans. C'est assez curieux de voir comment un papier de recherche, c'est toujours un peu long à lire, mais quelqu'un le résume, ou quelqu'un se dit, mince, on me demande d'inventer une méthodo, ben je regarde un papier, je vois le diagramme, paf, je le prends et puis ça y est, c'est ma méthodo et du coup tu pars sur des années et des années là-dessus sans avoir réfléchi aux avantages et inconvénients vraiment de la méthode ou en tout cas d'avoir oublié surtout les fondations du truc.
Le truc très drôle, c'est que la personne qui a rédigé le papier original avait déjà prévu les surcoûts de 100% à cause du délai entre les specs et la livraison. c'est ballot d'avoir sauté cette ligne-là quand même, tu vois.
Ouais, des fois, tu lis un peu ce que tu veux, quoi. Et puis, tu critiques juste en oubliant qu'il y a certaines parties qui ont bien été explicitées dans le papier, quoi. Mais bon.
C'est ça.
Bon, ouais. Moi, je vais revenir au waterfall, et puis c'est tout. Voilà. On a marre. Ouais.
Au Niagara.
Non, mais sinon, tu sais comment, des clients que j'avais eu, tu fais du Scrum. C'est du Scrum en V.
Du quoi?
Du Scrum en V. C'est-à-dire qu'il m'avait fait toutes les specs et que après il me demandait le chiffrage des stories, c'était combien de temps j'allais passer à faire du GWT, combien de temps j'allais passer à faire. Voilà.
Trop mal.
On va inventer une nouvelle méthode.
Ça qu'on chiffrait, tu prends des gros morceaux et tu lances un dé et puis. Ouais. En fait, la règle, c'est plus tu rajoutes de lignes et plus ça coûte, en fait. C'est comme ça que ces évaluations fonctionnent. Niveau sécurité, alors c'est un peu, enfin c'est pas en Europe, mais Equifax a une grosse faille de sécurité. C'est un outil qui gère les scores de crédit des gens aux États-Unis et d'ailleurs. Et il y a une de leurs applications qui avait une vieille faille, une faille assez vieille de sécurité. Ils se sont fait poner et il y a, je sais pas combien de millions, de dizaines de millions de numéros de sécurité sociale, de noms de personnes, etc. qui ont fuité. Et alors, sachant que quand on a le numéro de sécurité sociale, le nom et la date de naissance aux États-Unis, tu peux te retrouver, tu peux prétendre être la personne et après faire du vol d'identité. Donc, c'est assez grave. Et il se trouve qu'ils utilisaient Apache Struts, le 2 quand même. Et qu'au début, ils se sont dit, ouais, c'est la faute de la fondation Apache, il y a des bugs dans leur truc. Et en fait, il se trouve, après avoir creusé un petit peu, que c'était effectivement une faille qui avait été corrigée 3-4 mois avant et réalisée par la fondation Apache et que eux, ils avaient juste pas mis à jour. Et du coup, voilà, ça pose le truc. C'est bien d'utiliser les outils open source, mais à un moment, il faut dire, ben, il faut suivre les problèmes, les failles de sécurité et les choses-là, continuer à mettre à jour, ou alors utiliser des sociétés qui vous aident à faire ce genre de choses. Donc, voilà, c'était intéressant de voir la Fondation Apache qui a été obligée de se mettre un peu en défense avant que finalement les choses sortent. Et au final, Equifax, ils géraient la sécurité comme leurs pieds. Et du coup, il y a vraiment des problèmes majeurs, quoi. D'ailleurs, le fait de pouvoir récupérer, je sais pas combien de dizaines de millions d'informations utilisateurs juste avec une faille du framework web, voilà, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pas bien faits au niveau de l'isolation, de la ségrégation et des choses comme ça, de leur réseau, par exemple. Voilà. Sinon, on va passer à loi, société et organisation. Alors là, il y a pas mal de petits morceaux. Déjà, il y a le W3C, le World Wide Web Consortium, qui a standardisé, en gros, l'usage des DRM dans HTML5. Donc HTML5, ça standardisait l'affichage de vidéo, mais on pouvait pas accrocher des DRM de manière standard. Donc là, des gens ont poussé pour ce standard-là. Pas mal de gens dans le W3C étaient contre ça, notamment le FF, parce que l'idée de mettre des DRM dans des technologies web qui sont censées être ouvertes et le partage de l'information, ça pose problème. Ils avaient essayé de trouver un compromis en disant, bah, les DRM, faut qu'il y ait une exemption pour les chercheurs, les gens les personnes qui ont un certain handicap, qui ont besoin de contourner le DRM pour pouvoir quand même accéder à l'information avec une approche différente, etc., etc. Et le W3C est passé en force, notamment Tim Berners-Lee, et du coup le FF a fait une longue lettre expliquant que il se retirait du W3C. Donc depuis des années et des années, si ce n'est le quasi le début, le FF se retire du W3C. Donc je sais pas pourquoi ils se sont bloqués là-dessus, le W3C, pousser cette technologie.
Alors, ça a fait un peu de justement, bruit. En fait, c'est ce qui leur est reproché par l'EFF et d'autres détracteurs, c'est que globalement, ils considèrent que le choix qui a été fait, là, des EME, des Encrypted Media Extensions, c'est un truc qui est poussé par Google et Netflix. C'est-à-dire que c'est déjà les API, elles ont déjà été intégrées aux principaux navigateurs et à certains services, dont Netflix depuis 2013. Et du coup, c'est ça qui est reproché au W3C. Donc la position du W3C, c'est de dire les DRM, c'est pas nous, hein, ça a pas été créé par le W3C, c'est là depuis des décennies, donc d'après eux, il vaut mieux encore avoir une solution concertée plutôt que des outils à droite à gauche. Maintenant, effectivement, on peut craindre, puisque l'exception que demandait le FF, c'était en particulier sur le Digital Millennium Copyright Act américain. C'est un truc qui est utilisé par les ayants droit pour faire taire des critiques sur YouTube, par exemple. Donc effectivement, en termes d'ouverture et de sécurité du web, il y a des chances qu'on perde, quoi, qu'on perde un peu.
Ouais, bon, après, c'est la tendance. C'est la tendance 2016-2017, donc on est...
Ouais.
Voilà. Sinon, c'est algorithme biaisé, on s'en fiche, ouais. Non
Tout à fait, ouais, on s'en fiche. Il y a une initiative qui a été lancée par deux chercheuses, Kate Crawford, qui est chercheuse à Microsoft, et Meredith Whitaker, qui est chercheuse à Google, qui ont lancé une initiative qui s'appelle AA Now, en association avec un groupe The American Civil Liberties Union, la problématique adressée va être celle du biais algorithmique, qui s'annonce comme un problème sociétal majeur, puisque il y a de plus en plus de choses dans notre vie qui vont être décidées par des algorithmes. On parlait tout à l'heure des attributions de notes de crédit aux US, mais c'est aussi maintenant les attributions d'entretien d'embauche, puisque les GAFA, plus précisément Google, Amazon et Microsoft ont leur propre job service maintenant. Et donc, y a des biais algorithmiques qui sont présents, on le sait, et tout le monde s'en fiche. Et ça, c'est Cathy O'Neill qui l'explique, c'est une mathématicienne. Et elle explique que les gens ont tendance à trop faire confiance aux algos finalement pour enlever ces biais humains, alors que c'est pas le cas. D'abord parce que le premier problème, c'est que les compagnies qui écrivent ces algorithmes en général font pas tellement preuve de transparence sur le contenu de l'algorithme en lui-même, mais en plus s'intéressent pas à au monitoring et à la suppression de ces biais algorithmiques. Ce qu'elle sait bien, puisqu'en fait elle a ciblé déjà un certain nombre de compagnies qui auraient besoin de travailler là-dessus. Elle a monté une société dont c'est l'objectif, la mission principale, et elle a zéro client. Et de l'autre côté, dans les parties impliquées, il y a les régulateurs gouvernementaux. Et le problème, c'est que l'administration Trump en a strictement rien à faire de la science en général, mais de l'IA en particulier. Donc c'est pas eux qui vont intervenir pour dire. Je pense que là, vous êtes en train d'introduire des discriminations envers les communautés pauvres, enfin, vers les minorités et les communautés pauvres, et ça serait bien de rectifier.
Discrimination entre vers les blancs suprémacistes.
Voilà, voilà. Leur constat, c'est de dire, ben, il va falloir que quelqu'un fasse la police, donc on monte une fondation pour ça.
D'accord. Je précise que c'était une blague ce que j'ai dit, donc que ça se retrouve pas un peu. Ok. Ouais, après.
C'est un poste aussi un peu alarmiste pour qu'elle ait des clients, non?
Oui, après tu peux te demander un peu, ouais. Mais effectivement, vu que ça reste quand même un univers limité, en gros les GAFA et peut-être.
Mais après, pourtant, aussi d'autres sociétés qui utilisent. Alors... Moi, je vois bien qu'en interne, on a différentes méthodes pour, en tout cas, récupérer des données, essayer de. Enfin, il y a vraiment des gros efforts hein, qui sont faits pour essayer de ne pas avoir ces biais-là, c'est-à-dire d'obtenir des sources différentes, de choisir quand c'est des utilisateurs humains hein, qui font du scoring, des choses comme ça. Ils essaient d'avoir une diversité de population, d'origine, etc. Donc c'est bon, c'est un petit peu alarmiste dans le sens où, enfin, rien n'est parfait. Hein, je suis sûr qu'il y a toujours des biais, évidemment, mais en tout cas, je vois ça en interne où on porte un effort quand même assez significatif pour avoir les données les plus, je sais pas comment on dit, pas, enfin, non biaisées quoi. Et on a plusieurs outils, plusieurs systèmes pour aller dans ce sens-là. Mais il y a certainement encore beaucoup de travail, évidemment, à faire.
Oui, et puis je pense qu'il y a un tas d'autres sociétés. Google peut faire des efforts dessus, c'est pas forcément le cas de ses concurrents dans certains domaines, et de ces sociétés qui fournissent tous les logiciels qui sont utilisés dans les banques, puisque maintenant dans les banques il y a quand même énormément de choses qui sont déterminées par algorithme, et typiquement l'attribution de prêts. Et ça, on ne sait pas du tout comment ça se passe. On n'a aucune visibilité là-dessus.
On va passer à Oracle qui a finalement tué Sun. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on a ces articles-là qui disent « ça y est, Oracle a tué Sun ». Là, ils viennent de virer 90% des gens qui faisaient Spark et Solaris. Donc ça, c'était le dernier morceau. En gros, le gars faisait la liste. Donc Java... il l'avait pris pour essayer de finalement, enfin, de son interprétation, d'essayer d'attaquer Google avec Android. Bon, ça a raté. Java E, ça devait être hyper clé. Bon, là, c'est envoyé à une fondation. ils ont essayé de mettre un modèle freemium sur Java, ça n'a pas marché. Il y a VNetBeans, bon, ils l'ont donné à Apache. Il y a eu pas mal de problèmes avec MySQL et un peu une fermeture. Du coup, il y a eu des forks et maintenant c'est les forks qui se portent le mieux. Il a dit qu'il allait remettre le hardware à fond et au final, ça y est, là, l'équipe vient d'être complètement débandée. Solaris qui était en phase d'ouverture en gros avec Open Solaris a été fermé, du coup maintenant Solaris en gros est mort. Hudson, qu'est-ce que j'ai à dire plus? SunCloud qu'ils avaient arrêté, puis après Oracle est parti vers le cloud quelques années après, StarOffice qu'ils ont filé à la fondation Apache, et au final ça s'est pas bien passé. En gros, globalement, c'est la fondation LibreOffice qui est la plus active là-dessus, et il reste VirtualBox en gros qui n'a pas encore été cassé. Donc c'est un article évidemment critique là-dessus, donc c'était intéressant de voir toute cette liste en rétro, un peu en rétrospective. Sinon, encore Facebook là qui a du mal entre sa propriété intellectuelle et l'open sourcing. Donc là, ils utilisaient GraphQL en interne, qui est une technologie pour limiter le nombre de REST endpoints et de pouvoir décider la partie de la donnée que tu veux récupérer sans avoir des choses ad hoc. Et donc ils ont fait des brevets dessus, donc ça c'est en général on fait des brevets pour pouvoir se protéger, donc ça va. Et par contre, un peu en parallèle ou après, ils ont décidé d'open sourcer GraphQL, d'open sourcer la spec. Et sauf que là, un brevet a été donné au niveau GraphQL par le Patent Office américain, et sauf que la spec, la licence, elle dit pas on vous donne le droit d'utiliser les brevets de la technologie. Donc aujourd'hui, si vous réimplémentez une version de GraphQL, vous êtes en violation très probablement du ou des brevets de Facebook. Donc là encore, le conseil légal de Facebook a du pain sur la planche pour essayer de clarifier sa politique au niveau de ça. Parce que quand on open source une technologie, mais qu'on donne pas les droits de l'utiliser ou des choses, enfin surtout sur une spec, pas les droits de la réimplémenter, voilà, ça pose problème. Sur un sujet similaire, il y a la licence GPL qui a été testée au niveau dans les tribunaux. Donc quelqu'un qui essayait de dire non, mais la GPL c'est pas vraiment un contrat parce qu'on n'a pas signé de quelque chose d'évident, etc. Et puis la personne qui attaquait cette personne-là disait non, nous on a un projet avec une licence double propriétaire et GPL. Ces gens-là ont utilisé la version GPL puisqu'ils nous ont pas payé de licence sur le propriétaire, et par contre ils ont fait des modifications et en tout cas ils ont construit du code par-dessus et ils ont pas donné ce code-là sous GPL, donc ils sont en violation. Et donc en gros, la cour a décidé qu'effectivement la GPL était valide et qui, cette société-là était dans l'illégalité. Donc je crois que c'est une des premières fois. C'est assez rare que la GPL elle soit testée au niveau des cours de justice.
Les cours de récréation.
Cours de récréation, oui. Et puis pour finir là-dessus, il y a Red Hat qui a sa promesse au niveau des brevets. Donc il disait que Red Hat donnait son... Alors je m'entends, évitez de dire des bêtises. Ouais, c'est de ne pas utiliser ses brevets contre les projets open source. Donc ça, c'était la promesse. Alors en fait, c'était un sous-ensemble des projets open source. C'était genre les free software. Maintenant, c'est tous les projets open source. Et puis surtout, ils ont clarifié que si Red Hat se fait racheter ou démanteler, etc., cette promesse-là, elle doit être tenue par les gens qui y rachètent. Donc ça, c'était pour eux implicite dans la version initiale, mais pour nous était pas hyper clair. Donc je pense que c'est toujours des petites étapes intéressantes et que je trouve voilà, c'est pas mal de voir des sociétés essayer de faire des petits pas ou des grands pas pour essayer d'utiliser le système de brevets, mais ne pas en fait attaquer le mal par le mal. Voilà, ça c'était à moitié ma pub interne. Vous avez des commentaires sur toutes ces licences, brevets, choses comme ça, ou...
Ça fait mal à la tête, c'est un bon commentaire ça.
Ouais, voilà.
C'est
ouais.
Vrai qu'on préférait ne pas avoir à penser à ça, mais je pense que c'est un sujet en tant que développeur, ingénieur, etc., où il faut garder un œil dessus parce que ça peut impacter la société, ses finances, etc., malheureusement.
Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'on manque un petit peu de connaissances et de background sur ces sujets-là. Du coup, j'ai toujours du mal à me projeter dessus et à vraiment comprendre quels sont les enjeux, pourquoi on n'a pas le droit de faire ci ou ça, ou pourquoi ils auraient le droit de nous attaquer pour cette raison, etc. C'est vraiment Alors, bon, évidemment, c'est le boulot des avocats de connaître ces choses-là, par exemple. Et nous, on n'est pas forcément avocats, mais quand même, c'est
Ouais.
pas facile à appréhender, je trouve, comme sujet.
Je connais personne dans ce monde-là, mais ça serait intéressant de faire
Ah ouais.
une série d'interviews là-dessus, quoi, sur
Quoique le
le
problème,
copyright en France,
ce serait
les
de savoir
brevets,
poser les
etc.
bonnes questions aussi, parce que quand on ne maîtrise pas le sujet, je saurais même pas quoi poser comme question, quoi.
Ouais, on va se débrouiller. C'est comme si tu crois que les autres technologies, je sais quoi, à la base.
Le front web, par exemple. Mais tu vois, voilà,
Voilà, par exemple.
on l'a audré pour ça. Alors, faut peut-être
Voilà.
qu'on rajoute à l'avocat dans les cascodeurs, je sais pas.
Ouais.
Et puis un mec qui s'occupe de
Alors,
la
loi de la.
sécurité aussi.
En parlant de ton
Ouais.
impact, voilà, loi de sécurité intérieure. Ça parle de
Ouais.
quoi cet article?
Ah bah
Moi?
c'est. Alors c'est pas un article, hein, c'est un petit. Un petit podcast de 2 minutes, hein, même pas, donc qui résume simplement les impacts que vont avoir la loi qui est examinée cette semaine à l'Assemblée nationale. Donc l'état d'urgence en fait arrive à échéance, tant qu'il n'est pas revoté, arrive à échéance le 1er novembre, et donc notre président aimerait sortir de cet état d'urgence. Et pour ça, bah, tout simplement, le gouvernement a proposé une belle loi sécuritaire qui va prendre des dispositions de l'état d'urgence et les inclure dans l'état de droit. Et je pense que c'est pas mal d'être au courant de ce que ça implique, puisque en termes de sécurité, enfin en termes de, pardon, bah j'ai plus le mot, donc c'est pas grave. Il y a un gros impact sur nos vies privées, voilà, puisque par exemple les personnes qui sont sous surveillance pourraient être obligées de donner tous leurs identifiants à des réseaux sociaux et à des applications telles que leur boîte mail, par exemple. Qu'il y a une exploitation plus large qui est prévue des données du trafic aérien, donc le fameux PNR, le truc qui est partagé au niveau européen. Donc ça, c'est une masse de données, mais absolument énorme. Et donc, ça a été critiqué par le Conseil national du numérique, qui parle d'inflation législative et qui parle d'un impact très fort sur les libertés en ligne. Et parce qu'en plus, enfin. C'est toujours pareil, hein. Vous pouvez répondre que vous n'avez rien à vous reprocher, mais le problème, c'est que l'état d'urgence, il a été utilisé pour notamment mettre sous surveillance des activistes écologiques ou des personnes durant des syndicalistes, par exemple, pendant les manifestations sur la loi travail l'an dernier. Donc, le prétexte du terrorisme, en fait, peut amener à des dérives. Et justement, c'est l'une des grosses dérives qui est annoncée, c'est la conception prédictive du terrorisme. C'est-à-dire qu'à force de vouloir essayer de déterminer algorithmiquement quels sont les risques, qui sont les personnes qui représentent un risque terroriste pour la société, ben on s'expose à avoir pas mal de faux positifs. Voilà, ça c'était pour vous remonter le
Ouais.
moral, hein.
Et je rappelle que dans le droit actuel, si un juge dit donnez-moi votre mot de passe, peu importe ce que vous écoutez aux États-Unis, en France, vous êtes légalement obligé de donner accès, donc login mot de passe. Sinon, vous allez en prison.
D'accord, c'est
Donc
bon à savoir.
là-dessus, on se dit oui, il faut pas utiliser les empreintes digitales de l'iPhone, sinon
Ouais.
un juge peut nous demander. En fait, non, en France, on te demande, avec évidemment une commission rogatoire ou je sais pas quoi, tu es obligé de le donner. Enfin, tu es légalement obligé de le donner. Mais là, c'est différent parce que là, c'est de l'anticipation. C'est genre
C'est ça,
précoque, quoi.
exactement.
Ah tiens, on
Là,
pense que tu
c'est
vas
avant.
faire quelque chose, donc on te demande.
Voilà. Il n'y a pas de. Enfin, on entre typiquement dans le cas Minority Report, quoi. T'as rien fait, mais on
Exactement.
pense que tu vas faire quelque chose, et donc, par anticipation, clac. Et ça pose quand même problème.
Alors, on va passer aux outils de l'épisode. Si, comme moi, vous êtes envahi d'emails de GitHub sur les notifications à droite à gauche, alors soit vous désactivez tout, soit vous allez dans vous jouez avec un header qui s'appelle X-GitHub Reason, qui décrit la raison pour laquelle vous recevez cet email. Alors, soit vous êtes souscrit, ça c'est le truc par défaut qui fait que vous recevez plein, soit manuellement vous avez décidé de rejoindre un thread, soit vous êtes l'auteur, soit vous avez mis un commentaire dans le thread, soit il y a une mention de vous, etc. Du coup, vous pouvez décider qu'est-ce qui arrive dans votre boîte aux lettres et qu'est-ce qui arrive dans la boîte aux lettres que vous lisez jamais. Donc j'ai essayé d'affiner ça pour être un peu plus réactif sur les interactions dans GitHub, notamment tout ce qui est subscribe de base, je le vire parce que finalement il y avait un volume trop grand et j'arrivais à rien. Donc le monsieur explique comment on fait ça sous GitHub. Alors moi sous Gmail pour filtrer les choses. Moi j'utilise pas Gmail pour mes projets open source, donc mais j'utilise ces headers là pour faire des règles de classement finalement, tout simplement. Petit truc pratique. Ensuite, macOS Clean, c'est quoi?
Voilà, dans la rubrique petit truc pratique, c'est Quentin Adam qui a partagé la semaine dernière un script qu'il utilise pour garder son Mac clean, en fait, pour mettre à jour Brew et NPM. Voilà, donc en plus, c'est bien parce qu'il met le script en entier, puis après, il l'explique étape par étape. Donc, s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, vous pourrez zapper directement les parties qui ne vous intéressent pas. Voilà. Et puis, Keybase Teams. Donc, Keybase, je ne sais pas si tout le monde connaît, en fait, c'est une application... C'est un peu une app multi-usage qui est complètement sécurisée, hein, qui est encryptée... bout à bout, et qui permet, donc il y a, on pouvait faire déjà du chat, on pouvait déposer des dossiers, on avait des dossiers pour partager des documents, des choses comme ça, et en fait là, il lance donc la fonctionnalité Teams, qui finalement est une sorte de Slack un peu, sauf que c'est complètement encrypté, donc ça peut être pratique pour partager le mot de passe du Wi-Fi par exemple, ou des trucs comme ça, voilà.
D'accord, en parlant de Slack, il y a Atlassian qui a sorti Stride, qui est, leur post-HipChat qui est censé attaquer Slack avec des
trucs super bien. Mais est-ce que c'est la même base que HipChat ou c'est un produit complètement nouveau? C'est ça que j'ai pas trop suivi.
C'est un produit complètement nouveau. Après, je pense que c'est la même équipe qui a développé Stride.
Okay.
C'était genre une réécriture à zéro du,
et du coup,
réécriture du concept en fait.
Pardon. Pour ceux qui utilisaient HipChat, il n'y a pas de migration facile vers ça?
Je ne sais pas. J'ai pas vu migration, faudrait voir. Okay. C'est une bonne question.
D'accord.
Et d'ailleurs,
de toute façon, j'utilise pas.
oui, voilà. Mais toujours dans la partie Atlassian et outils, il y a aussi, ils ont annoncé l'intégration de Trello dans Jira, vu qu'ils l'avaient racheté il y a quelques temps.
Voilà. Ah oui.
D'accord.
Ah oui, ça m'a surpris quand ils ont dit qu'ils avaient racheté, qu'ils avaient rappelé qu'ils avaient racheté Trello, quoi. Parce qu'ils ont changé tout leur logo, puis du coup, je regarde les logos et je fais, mais c'est le logo de Trello. Mmh. Ah, c'est vrai, ils ont racheté. Ouais. J'avais complètement oublié.
C'est ça.
Keybase, à la base, c'était pour les gestions des clés PGP, en gros, GPG, mais là, visiblement,
ils ont monté en gamme. C'est super cool, en fait. Ça vraiment, moi, c'est un outil que j'aime bien, que je trouve très pratique. Donc c'est pas
mal. Tu l'utilises vraiment ou pas?
Je l'utilise. Tu vois, typiquement, on s'en sert sur l'association des Vox for Kids France parce que c'est Emmanuel le trésorier et du coup, quand il a besoin de me partager, puisque je suis la présidente, quand il a besoin de me partager des trucs un peu sur le compte en banque, par exemple, des choses comme ça. C'est pas mal. Ou tu vois, l'autre fois chez Sagi, on peut-être en parler aux gars parce que chez Sagi, on a l'ASPAS pour toute l'équipe et donc je sais plus, j'avais besoin d'un mot de passe, mais un truc un peu touchy. Donc tu le partages par Slack, c'est pas terrible. Là, tu peux le partager par Keybase et voilà. Parce que Slack, nous on a la version payante, on a l'historique qui est enregistré. Donc même si on l'efface, il a été enregistré par Slack, etc. Tu vois.
Effectivement, ouais. Mm. Parce qu'effectivement, moi je l'ai.
Après, il y avait Signal quand même aussi.
Pardon?
En librairie. Signal, il y avait Signal quand même en truc safe, point à point, etc.
Parce que moi, en tout cas, j'aime bien Keybase, le principe, la boîte, ce qu'ils font, comment ils innovent, etc. Mais finalement, je n'utilise pas beaucoup. Et je l'ai utilisé effectivement quelques fois pour partager comme ça des mots de passe, genre, je ne sais plus, le mot de passe de notre serveur de Continuous Integration, des trucs comme ça. Mais finalement, je ne l'utilise pas si souvent. Donc,
curieux,
là, quand ils ont sorti Teams, c'est parce que ça accroît encore plus son utilité, quoi. Donc, je trouve ça pas mal.
Voilà, pour le moment, c'est un usage ponctuel, mais en tout cas, j'aime vraiment bien l'outil. Je le trouve bien fait. En plus, il n'y a pas de chichi. C'est très simple. Tu comprends vite comment ça marche, donc c'est assez agréable.
Ouais. Non, c'est cool. Ouais.
D'accord. Alors, les conférences, il y a le de retour de le DevOps Rex, je crois qu'en Arnaud, il sera le 2 octobre à Paris. DevFest Nantes le 19 et le 20 octobre. Scala IO le 2 et le 3 novembre, c'est à Lyon. Alors DevFest Nantes, c'est à Nantes, hein. Mais bon, ça vous aviez deviné.
Il y a le DevFest Toulouse
DevOps Belgique
aussi cette semaine, mais bon,
je pense ouais, pas
il y a. Ouais, ça a un peu raté là. DevOps Belgique du 6 au 10 novembre. Alors que moi j'y serai.
Moi aussi.
Vous y serez vous d'ailleurs
moi aussi. Bah ouais.
Ouais. Et je serai au DevFest
Nantes
aussi.
DevFest Nantes podcast,
aussi,
hein.
Moi aussi.
D'accord. Bah, faites des interviews. Hein.
Ah ouais, même. C'est
si
vrai.
Vous voyez des gens intéressants.
On n'aurait pas dû dire qu'on y allait.
Oh mince.
Exactement.
C'est vrai.
Codeur en scène à Rouen le 23 novembre. La 7e édition de Softcheck à Genève.
J'ai toujours pas fait Softcheck.
Je sais pas quand c'est. J'ai pas marqué. Pas marqué. Un site web avec un. J'aime pas les sites web où il y a une page d'initialisation, là, vous voyez.
Ouais.
Oui, bah oui, je vois très bien.
Ça rappelle les flashs.
Exactement.
Alors, c'est le 26 et le 27 octobre. Ouais, c'est insupportable. Bref. Le Paris Open Source Summit le 6 et le 7 décembre et le Snow Camp 2018 et donc le 24 au 27 janvier. Voilà, si vous avez une conférence dont vous voulez parler, alors le mieux c'est de faire un petit crowdcast, crowdcast@lescascodeurs.com et où la page web c'est lescascodeurs.com/crowdcast pour avoir les informations sur comment on fait. Puis si vraiment vous voulez pas, bah vous envoyez au moins un petit email et puis on rajoutera votre conférence ou votre événement de manière générale. Voilà, bah merci à tous et à la prochaine.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.